Le journal Audrey Mondy.
Bonsoir. L'école continue sera bientôt une réalité dans le canton de Neuchâtel. Les communes de La Chaux-de-Fonds, Val-de-Rue, La Grande-Béroche et Neuchâtel vont mettre en œuvre des projets pilotes pour permettre aux enfants d'être pris en charge sur l'entier de la journée. Un nouveau programme qui débutera dès 2023. Non aux cours à distance, c'est le cri de la FEN. La Fédération des étudiants neuchâtelois demande au gouvernement cantonal de refuser cette mise en consultation mercredi par le Conseil fédéral. En ski alpin, Marco Odermatt a encore brillé en remportant le Super G de Wengen, vainqueur lors du géant d'Adelboden le week-end passé. Le Nidwaldien confirme ses aptitudes et sa polyvalence, vous l'entendrez dans ce journal. Demain, la journée s'annonce bien ensoleillée, malgré quelques brouillards givrants en matinée, jusqu'à 900 mètres d'altitude. Feu vert pour la journée continue à l'école dans quatre communes du canton de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Val-de-Rue et la Grande-Béroche mettront en œuvre des projets pilotes d'ici à 2023 pour permettre aux enfants d'être pris en charge du matin au soir. Le canton a invité les communes à développer des projets adaptés à leur réalité géographique et démographique. Les explications de la conseillère d'État en charge de la formation, Christelle Graff.
La question s'est posée de savoir est-ce que c'est finalement le canton qui doit arriver avec une idée, un projet et l'imposer aux communes. Et c'est pas le souhait qu'avait le canton, c'était vraiment l'idée de travailler ensemble, de travailler avec les communes. Et depuis le début du projet, on travaille en étroite collaboration avec les communes pour pouvoir avoir aussi des réalités différentes du terrain, puisque chaque commune n'est pas confrontée aux mêmes problématiques de par son territoire. Donc vraiment d'avoir quatre projets différents, c'est forcément ce qu'il y a de mieux pour pouvoir arriver à un modèle qui est applicable à tous.
Du côté de la Chaux-de-Fonds, si les grandes lignes sont dessinées, le collège qui a été choisi n'a pas encore été révélé. Le projet prévoit de rendre obligatoire 2 jours d'école en continu pour les élèves de l'établissement situé au centre et qui comprend entre 100 et 150 écoliers d'ici 2023. La ville de Neuchâtel, elle, a choisi les collèges de Serrières et du Cré-du-Chêne pour cette expérimentation. Les explications du concept par Nicole Bor, conseillère communale en charge de l'éducation.
La journée, elle peut commencer à 7h30-8h et finir à 18h-18h30. Les enfants ne sont pas obligés de manger à l'école s'ils n'ont pas l'école l'après-midi. Par contre, si dans l'école l'après-midi, ils doivent rester à midi. Et puis ensuite, c'est optionnel, les enfants peuvent avoir accès à des activités extrascolaires du type sport ou du type activité culturelle l'après-midi après les cours. Une chose importante est de dire que ce concept sera développé sur 2 collèges, le Cré-du-Chêne et le collège de Serrières, mais que ce n'est absolument pas obligatoire. Les parents choisissent s'ils veulent que leur enfant s'inscrit dans le système MAE ou pas, et nous aurons des classes mixtes. Il y aura 3 types finalement d'élèves, des enfants qui suivent le cursus MAE, des enfants qui sont parascolaires comme jusqu'à aujourd'hui, et des enfants qui ne sont pas du tout ni au parascolaire ni nulle part, comme c'est le cas déjà aujourd'hui.
Des propos recueillis par Mathias Delettro, ce projet d'école continue a pour but de renforcer l'égalité des chances et permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et professionnelle. Le dossier complet est à retrouver sur rtn.ch. Toujours au chapitre de l'éducation, les syndicats romands ne veulent pas d'une formation obligatoire réduite. Dans les cantons de Neuchâtel, du Jura bernois et de Vaud, la durée de formation dans les écoles de maturité devra passer de 3 à 4 ans. Par conséquent, une année d'école obligatoire pourrait être supprimée pour les élèves qui se destinent à une maturité gymnasiale. Les syndicats craignent notamment des conséquences négatives sur les choix de formation des élèves. Et cap maintenant vers l'université de Neuchâtel, où la Fédération des étudiants neuchâtelois ne veut pas que les universitaires soient à nouveau obligés de suivre les cours derrière un écran depuis la maison. Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, la FEN enjoint le Conseil d'État à répondre à la consultation fédérale lancée hier en refusant l'enseignement à distance. Un retour en arrière qui aurait des conséquences, estime la vice-présidente de la FEN, Maëva Charlelio.
Déjà, l'impact serait principalement mental, psychologique. Un coup dur, retour à la case départ, dans le sens que beaucoup d'étudiants, et comme tout le monde, on espérait que ce soit un chapitre clos et qu'ils ne reviendraient pas. Et là, ce serait un peu une boucle sans fin, de nouveau à distance, de nouveau loin de ses camarades, de nouveau derrière un écran, toute la journée avec l'impression d'être devant une vidéo YouTube constamment, sans échange avec les gens. Et il faut quand même noter que moi, personnellement, étant donné que j'ai commencé l'université l'année passée, donc en plein système à distance, on l'a remarqué, c'est qu'avec mes camarades de ma volée, on ne se connaît pas tellement, puisqu'on ne s'était presque jamais vu l'année passée. Et là, on a eu quelques mois où on a pu enfin un petit peu se découvrir et de se dire, non, c'est déjà fini, on retourne à la maison. C'est vrai que c'est un coup psychologique, surtout que là, on a eu quelques mois en présentiel. On a eu goût à la vie normale, on a eu goût même un peu aux soirées universitaires, tout ça, tout ce qu'un étudiant aime pouvoir vivre, il devrait pouvoir vivre. Et maintenant, on nous le retire à nouveau. C'est vrai que ce yo-yo est vraiment très, très pesant.
À l'inverse, la FEN a milité pour des examens à distance et a été entendue. Comme l'explique Maëva Charlelio, un examen est un processus ponctuel et unique, contrairement à un cours. 19 000 panneaux photovoltaïques vont fleurir à Cressier. La raffinerie annonce aujourd'hui investir 6,5 millions de francs dans un gigantesque parc solaire pour ses besoins en énergie. Située à l'est du site, l'installation au sol, appelée à devenir la plus puissante de Suisse, aura une superficie équivalente à 5 terrains de football. Elle permettra de fournir à pleine puissance plus de 60% de l'énergie consommée par la raffinerie. Propriétaire des lieux, Varro Energy Group a annoncé également des efforts pour favoriser la biodiversité autour de ce projet, le chargé de communication de la raffinerie de Cressier, Daniel Merki.
Durant la procédure de préparation, nous avons travaillé en concertation avec les organisations de protection de l'environnement. Il y a un cahier des charges environnementales qui a été mis en place. Et puis, nous avons prévu toute une série d'aménagements sur cette zone. Nous allons, par exemple, planter une haie buissonnante qui permettra de protéger les jeunes lièvres. On va également planter des mûriers et des framboisiers qui permettront de nourrir les oiseaux et les mammifères. On a également des petites structures qui sont prévues sur la butte. Et puis, on a également au moins un étang peu profond qui sera creusé à cet endroit-là et puis qui permettra d'accueillir les batraciens.
Il y a cette volonté justement de pouvoir un peu contrebalancer aussi votre impact énergétique avec ces installations.
Disons que partout où on a l'occasion d'améliorer la situation d'un point de vue environnemental, on va le faire. On a effectivement une surface industrielle, on a des machines qui nous servent à produire de l'énergie, mais on a également des surfaces très très importantes que nous pouvons utiliser pour favoriser la biodiversité et on le fait très très volontiers.
Des propos recueillis par Raphaël Girardin. Si tout se passe sans encombre, les travaux pourraient débuter dès cet été et l'installation solaire pourrait fournir ses premiers kilowatts en novembre prochain. Stéphane Eicher au Corbac Festival le vendredi 3 juin. Les organisateurs du Festival de la Chaux du Milieu ont annoncé aujourd'hui la présence du chanteur bernois sur l'affiche de la 26e édition. La chanteuse neuchâteloise d'adoption, Émilie Zoé, se produira en première partie. Ses noms s'ajoutent à celui de Maxime Le Forestier, déjà annoncé pour la soirée du 2 juin. Le Conseil fédéral veut imposer les grandes entreprises à 15% dès 2024. Et le gouvernement a décidé aujourd'hui d'une feuille de route. Cette règle incombe aux multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse les 786 millions de francs. Selon la nouvelle règle convenue par l'Organisation pour la coopération et le développement économique et le G20, les entreprises qui opèrent uniquement en Suisse ainsi que les PME ne sont pas concernées. La gauche syndicale socialiste et verte se mobilise pour lancer le référendum contre l'abolition de l'impôt anticipé sur les obligations. La majorité de droite du Parlement l'avait décidé en décembre. C'est un nouveau cadeau fiscal injustifié et une incitation à ne plus déclarer ses revenus, dénonce la gauche. Alors pas question d'encourager la criminalité fiscale, s'exclament les référendaires. Parmi eux, le conseiller national vert fribourgeois Gerhard André.
Ce n'est pas le moment pour faire les cadeaux fiscaux, et surtout pas pour celles et ceux qui n'en ont pas besoin. L'impôt anticipé est une taxe qui permet à sécuriser que les institutions, que les particuliers déclarent leurs revenus. Et si on supprime ce genre de taxe, on supprime aussi la sécurisation. Donc on va perdre de l'argent et puis on va inviter de ne plus déclarer des revenus. Donc monsieur, madame, tout le monde va continuer à devoir déclarer tout, à devoir payer l'impôt. Et puis ce n'est plus le cas pour les institutionnels, pour les étrangers. Donc il y aura deux classes de comportements.
La gauche syndicale et politique a jusqu'au 7 avril pour déposer 50 000 signatures à la chancellerie fédérale.
RTN, il est 18h09.
Sport. En ski alpin, le prodige suisse Marco Odermatt a encore frappé. Sur une piste qu'il découvre, celle du Lauberhorn, le Nidwaldien a remporté le Super G du jour. Il a terminé avec 23 centièmes d'avance sur le Norvégien Alexander Kilde. L'Autrichien Matthias Mayer complète le podium à 58 centièmes. Le récit de cette première journée à Wengen avec notre envoyé spécial Hugo Dacustodia.
De l'admiration, oui. Une surprise, non. C'est en substance ce qu'a dit Beat Feutz, le roi de Wengen, quand on lui a demandé de se prononcer sur la performance de Marco Odermatt. Certes, le Nidwaldien n'avait jamais descendu le Lauberhorn en compétition, mais il avait déjà obtenu de très bons résultats cette saison en Super G. Et comme l'ont révélé plusieurs coureurs, un Super G à Wengen, c'était de toute manière une nouveauté pour l'ensemble des skieurs. Dans ces conditions, le leader du général de la Coupe du Monde a simplement eu besoin de laisser parler son talent. Parti avec le Dossard numéro 7, Marco Odermatt collait près d'une seconde à l'Italien Dominique Paris qui s'était élancé quelques minutes avant lui. Le ton était donné. Par la suite, seuls le Norvégien Alexander Kilde et l'Autrichien Matthias Mayer ont été capables de chatouiller le meilleur temps du Suisse sans parvenir à le détrôner. Voilà les courses du Lauberhorn bien lancées pour l'équipe de Suisse. De bon augure avant le riche programme qui attend les coureurs avec les deux descentes demain et samedi, puis le slalom dimanche.
Vainqueur du géant d'Adelboden où il se savait attendu, Marco Odermatt a donc réussi en quelques jours à remporter un Super G, une course de vitesse disputée sur une piste et dans des conditions bien différentes. Pas de quoi perturber le principal intéressé, on l'écoute.
Oui, c'était une course très différente, aussi avec les émotions et avec la pression, c'était complètement différent. Et aussi pour ce qui est Adelboden, c'était une très 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 difficile et dur. Et ici, tout à fait. Et avoir beaucoup de sons et ce qui est très calme et c'est différent, mais les deux marchent. C'est magnifique, et je ne sais pas, c'est un rêve.
Dans le camp suisse, pas d'autres top 10 dans le sillage de Marco Odermatt. Le grison Stefan Rogentin s'est classé 11e, 14e place pour Nils Hintermann et 15e rang pour le Neuchâtelois d'Hérémence Loïc Meillard. Demain, place à la première descente du week-end sur un parcours raccourci. La vraie épreuve reine du Lauberhorn est prévue samedi. Et puis en marge de ses courses dans les Alpes bernoises, Carlo Janka a annoncé la fin prochaine de sa carrière. Âgé de 35 ans, le grison, ancien vainqueur du Grand Globe de Cristal, tirera sa révérence dans deux jours. Le retour de la grimpette de la Bosse ce vendredi au Haut-Genevet. Le tracé de la course de ski alpinisme emmènera les participants sur les pentes de Tête de Rang et de la Sermance sur un parcours de 5,2 km. L'un des clous de la course sera la montée de la Bosse de Tête de Rang qui se fera à ski dans le dos. Les organisateurs de ce rendez-vous qui se veut convivial espèrent une centaine de participants. Les inscriptions sont encore ouvertes. Très belle soirée à toutes et à tous.